Chapitre 2. Le serviteur d'Imbre. Aucun Leblanc possédait un lapin, pour lequel il éprouvait une extrême affection. L'animal vivait dans son jardin, accourait quand il l'appelait, et dormait des heures durant sur ses genoux. Le catalyseur de Hawquin était une jeune fille, guère plus qu'une enfant. Elle s'appelait Reda, mais Hawquin la surnommait Folleuil, parce qu'un de ses yeux regardait toujours sur le côté. Elle n'aimait pas le lapin, car chaque fois qu'elle s'asseyait près de Hawquin, la petite bête s'efforçait de la chasser en la mordillant méchamment. Un jour, l'animal mourut, et Reda, ayant découvert son cadavre dans le jardin, le vida, le dépeça et le découpa pour le mettre à cuire. C'est seulement après le repas que Hawquin s'enquit de son lapin, inquiet de ne pas le voir, et Reda, ravie, lui apprit qu'il venait d'en faire son dîner. Aux reproches amers que lui fit Hawquin, le catalyseur répondit sans une once de repentir « Mais, maître, vous avez vous-même prédit cet événement ? N'avez-vous pas écrit, dans votre 7e manuscrit, « Le prophète avait faim de la chaleur de sa chair, alors même qu'il savait que cela serait sa fin. » Hawquin, le prophète blanc. Du scribe Catherine. J'étais à mi-chemin de la tour d'Imbre quand je pris conscience de ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de fuir, de chercher refuge dans un terrier en espérant secrètement que mon vieux mentor s'y trouverait et que je n'aurais qu'à obéir à ses ordres, comme à l'époque où j'étais son apprenti. Mon pas se ralentit. Le réflexe approprié chez un gamin de 17 ans convient mal à l'homme de 35. Il était temps que j'apprenne à m'orienter seul parmi les intrigues de la cour, ou que je la quitte définitivement. Je passais à cet instant devant une des petites niches du boyau qui indiquait la présence d'un trou d'observation. Elle était garnie d'un petit banc sur lequel je posais mon paquet d'affaires et pris place moi-même afin de mettre de l'ordre dans mes pensées. Rationnellement, quelle était ma ligne de conduite la plus efficace ? Éliminer tous les gêneurs. C'eût été un plan excellent si j'avais connu leur identité. L'autre possibilité qui s'offrait à moi était plus compliquée. Elle m'obligeait à protéger d'épis non seulement ma propre personne, mais aussi celle du prince. J'écartais de mes réflexions toute appréhension concernant ma sécurité personnelle pour estimer le danger que courait de voir. Ses ennemis disposaient d'un moyen de pression sur lui, la menace de révéler au royaume qu'il possédait le vif. Les ducs n'accepteraient jamais un monarque porteur d'une telle tare. En outre, pareille annonce, non contente d'anéantir les espoirs que Ketriken nourrissait d'une alliance pacifique avec les îles d'outre-mer, déboucherait très vraisemblablement sur la chute des loin-voyants. Toutefois, autant que je pusse m'en rendre compte, un résultat aussi extrême ne présentait aucun intérêt pour l'épi. Une fois devoir écarté du pouvoir, ce qu'ils savaient de lui ne leur servirait plus à rien. Pire encore, ils auraient contribué à renverser une reine qui pressait son peuple de se montrer tolérant avec les vifiés. Non, la menace de dévoiler publiquement la tare du prince restait utile uniquement si devoir demeurait en lice pour le pouvoir. Ils ne chercheraient pas à le tuer, seulement à le plier à leur volonté. Que s'en suivrait-il? Quelles seraient leurs exigences? Demanderait-il que la reine fasse appliquer à la lettre les lois qui interdisaient l'exécution de vifiés au seul motif d'avoir cette magie dans le sang? Voudrait-il davantage? Il serait bien bête de ne pas en profiter pour tenter d'accroître leur influence. S'il se trouvait parmi les ducs et le reste de la noblesse des membres du lignage, peut-être les pilles chercheraient-ils à les faire entrer dans les bonnes grâces royales. À ce propos, les Brisinga étaient-ils venus assister à la cérémonie de fiançailles? Il serait peut-être intéressant de mener une petite enquête là-dessus. Mère et fils appartenaient au lignage, je le savais pertinemment, et ils avaient collaboré avec les pies pour attirer devoir dans leurs griffes. S'apprêtait-il à jouer maintenant un rôle plus actif? Et comment les pies s'y prendrait-il pour convaincre Ketriken que leurs menaces n'avaient rien d'un jeu? Qui pourrait-ils tuer pour apporter la preuve de leur force? La réponse était simple. Tom Blaireau. De leur point de vue, je n'étais qu'un pion sur l'échiquier, un petit domestique, mais aussi un personnage détestable, qui avait déjoué leur plan et mutilé un de leurs chefs. Il s'était manifesté à moi la nuit précédente, certain que je transmettrais le « message » aux tenants du pouvoir à Castelserre. Ensuite, afin de faire toucher du doigt aux loin-voyants leur vulnérabilité, l'épi me saignerait comme un chien de chasse égorge un cerf. Mon exemple servirait de leçon pratique à Kétriken et Devoir. J'enfouis mon visage dans mes mains. Le mieux était que je m'enfuis. Mais à présent que j'étais revenu à Castelserre, si récemment que ce fut, l'idée d'en repartir me répugnait. Dans cette froide citadelle de pierre, j'avais autrefois été chez moi, et malgré ma naissance illégitime, les loin-voyants étaient mes parents. Je perçus soudain une sorte de murmure lointain. Je me redressai sur mon banc et compris qu'il s'agissait de la voix d'une jeune fille qui traversait l'épaisse muraille devant moi pour parvenir jusqu'à mon poste d'espionnage. Avec une curiosité lasse, j'approchai mon œil du trou d'observation et découvris une chambre à coucher au mobilier luxueux. Une enfant aux cheveux noirs me tournait le dos et près de l'âtre, un guerrier grisonnant occupait un fauteuil. Il arborait sur son visage des scarifications, minces lacérations frottées de cendres que les Outriliens considéraient comme des ornements, mais aussi des cicatrices reçues au combat, à la pointe de l'épée. Sa chevelure était parcourue de fils gris et sa courte barbe était poivre et sel. Il se nettoyait et se taillait les ongles à l'aide de son couteau, tandis que la jeune fille répétait des pas de danse devant lui.
« Et deux sur le côté, un en arrière et on tourne !» chantonnait-elle, le souffle court, tandis que ses pieds suivaient ses propres instructions. Comme elle pivotait sur elle-même, dans un tourbillon de jupes brodées, j'entreaperçus son visage. C'était la Narcheska Eliania, la future fiancée de Devoir. Elle s'entraînait sans doute pour leur première danse ce soir. « Et on recommence !» Deux pas sur le côté, deux en arrière et...
« Un seul pas en arrière, Elia, » fit le vieil homme. « Et ensuite on tourne. Essaye encore. »
Elle se figea et prononça rapidement quelques mots dans sa langue natale.
« Eliania emploie l'idiome des fermiers. Il va avec leur danse, » répondit-il d'un ton implacable.
« Je n'en ai pas envie, » dit l'enfant avec irritation. Leur parler est aussi insipide que cette pavane. »
Elle lâcha ses jupes et croisa les bras sur sa poitrine.
Tous ces petits pas et ces virevoltes, c'est ridicule. On dirait des pigeons qui se haussent du col et qui s'envoient des coups de bec avant de s'accoupler.
En effet, répondit l'homme d'un ton affable. Et le but est exactement le même. À présent au travail, et je veux la perfection. Si tu es capable de retenir les mouvements d'un exercice à l'épée, tu es capable d'apprendre ses pas. Préfères-tu que ces fermiers hautains croient que les runes du dieu ont envoyé une petite batelière maladroite épouser leur joli prince ?
Elle lui fit une grimace qui découvrit des dents d'un blanc immaculé, puis elle saisit ses robes, les souleva jusqu'à une hauteur inconvenante, qui me permit de voir qu'elle avait les jambes et les pieds nus, puis répéta la danse à toute allure.
Deux pas sur le côté, et un pas en arrière, et on tourne, et deux pas sur le côté, et un pas en arrière, et on tourne, et deux pas sur le côté.
Son débit furieux transformait la gracieuse pavane en galopade échevelée. Amusé, l'homme sourit de ses caracoles et la laissa faire.
« Les runes du dieu, » me dis-je.
Et je finis par mettre le doigt sur le vague souvenir que cette expression avait éveillé en moi. C'était ainsi que les Outriliens désignaient l'archipel qui composait leur territoire. De fait, la seule carte indigène des îles d'outre-mer que j'eusse jamais eue sous les yeux donnait une forme de rune à chaque petit bout de terre qui pointait hors de leurs eaux glacées.
« Assez !» grogna soudain le guerrier.
La jeune fille était rouge des efforts qu'elle fournissait et elle avait le souffle court, mais elle n'arrêta sa cavalcade que lorsque l'homme quitta brusquement son fauteuil et la souleva de terre.
« Suffit, Eliania, suffit !» « Tu m'as prouvé que tu sais exécuter ce pas, et à la perfection. Cesse à présent. Ce soir, tu dois n'être que grâce, charme et beauté. Si tu laisses paraître la petite furie que tu es, ton joli prince risque de te préférer une fiancée moins fougueuse. Ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas ?
Il la reposa et se rassit dans son fauteuil.
Si, c'est ce que je veux.
La réponse avait fusé aussitôt. D'un ton plus mesuré, l'autre répliqua.
Non, à moins que tu ne veuilles aussi tâter de ma ceinture.
Non.
Sa voix tendue m'indiqua qu'il ne s'agissait pas d'une menace en l'air.
Non.
Dans la bouche de l'homme, le mot prit des allures d'acquiescement.
Je n'aimerais pas cela, mais tu es la fille de ma sœur, et je ne veux pas voir déshonorer la lignée de nos mères. Et toi ?
Je ne veux pas déshonorer la lignée de nos mères.
L'enfant se tint raide et impassible en prononçant ces mots, et puis ses épaules se mirent à tressauter quand elle poursuivit.
Mais je ne veux pas épouser ce prince. Sa mère ressemble à un vampire des neiges. Il va me faire des enfants et ils seront pâles et froids comme des spectres de glace. Je t'en prie, Piotr, ramène-moi à la maison. Je n'ai pas envie de vivre dans cette grande caverne toute froide. Je ne veux pas que ce garçon me fasse ce qui donne des enfants. Tout ce que je veux, moi, c'est habiter dans la maison basse de nos mères, me promener sur mon poney dans le vent, et aussi avoir mon bateau à moi pour traverser le Sandalfjord, et mes raies de pêche à moi pour attraper le poisson. Et quand je serai grande, mon banc à moi dans la maison des mères, et un homme qui sache qu'il est juste et normal d'habiter chez les mères de son épouse. Tout ce que je demande, c'est ce que désirent toutes les filles de mon âge. Ce prince va m'arracher à la lignée de nos mères, comme une branche à un arbre. Et je vais me dessécher ici, et devenir toute fragile, jusqu'à ce que je me casse en petits morceaux.
Eliania, Eliania, mon cher cœur, non.
L'homme se leva de son fauteuil avec la grâce fluide d'un guerrier, bien que ce fût un outrilien typique, trapu et râblé. Il prit l'enfant dans ses bras, et elle enfouit son visage contre son épaule, convulsée de sanglots, tandis que des larmes brillaient aux yeux de son oncle.
« Allons, calme-toi, calme-toi. Si nous jouons bien la partie, si tu te montres forte et vive, que tu danses comme les hirondelles au-dessus de l'eau, cela n'arrivera jamais, jamais. Ce soir, ce ne sont que des fiançailles, petite lumière, pas un mariage. Crois-tu que Piotr t'abandonnerait ici, petit poisson sans cervelle ? Personne ne va te faire d'enfant cette nuit, ni aucune autre nuit, avant de longues années. Et même alors, cela n'arrivera que si tu le désires. Je te le promets. T'imagines-tu que je laisserai humilier la lignée de nos mères en permettant qu'il en soit autrement? C'est une simple danse que nous exécutons. Toutefois, il faut l'exécuter parfaitement.
Il déposa la toute jeune fille sur ses pieds menus, lui souleva le menton pour l'obliger à le regarder et essuya les larmes de ses joues d'une main couturée de cicatrices.
« Là, voilà, allons, fais-moi un sourire, et n'oublie pas, tu dois la première danse au joli prince, mais la seconde est pour Piotr. Alors, montre-moi comment nous allons nous sortir ensemble de cette ridicule parade fermière. »
Il se mit à fredonner un air sans mélodie particulière pour donner la cadence, et la jeune fille lui tendit ses petites mains. Ensemble, ils effectuèrent les premiers pas, elle avec des mouvements de duvet de pissenlit, lui comme un combattant. Et je les observais. L'enfant ne quittait pas l'homme des yeux, et lui avait le regard perdu au-dessus de sa tête. Un coup à la porte les interrompit.
« Entrez !»
fit Piotr, et une domestique apparut, une robe jetée sur un bras. Aussitôt, l'homme et l'enfant se séparèrent et se tinrent immobiles. Il n'aurait pas eu l'air plus méfiant si un serpent s'était introduit dans la chambre. Pourtant la femme, vêtue à l'outrilienne, était manifestement des leurs. Son attitude attisa ma curiosité. Sans faire de révérence, elle leur présenta la robe en la secouant un peu pour la déplisser. « C'est ce que portera la Narcheska ce soir. » Piotr examina le vêtement. « Je n'en avais jamais vu de pareil. C'était une robe de femme taillée à la mesure d'une enfant. » Bleu pâle, elle était largement échancrée à l'encolure. Un jabot de dentelle doublé de fronces astucieusement placées remontait le tissu, ce qui prêterait à Eliania une poitrine qu'elle ne possédait pas encore. L'enfant rougit devant la robe. La réaction de Péotre fut plus directe. Il se plaça entre Eliania et le vêtement comme pour l'en protéger. « Non, elle ne portera pas ça. »
« Si, la dame l'a décidé. Le jeune prince trouvera cette tenue très séduisante. »
Ce n'était pas une opinion qu'elle exposait, mais une évidence. Non, c'est se moquer d'elle et de son rang. Cette robe n'est pas celle d'une archesca des runes du dieu. Eliania insulterait la maison de nos mères en s'affichant dans de tels atours.
Un pas, un geste de la main, et Péotre jeta la robe à terre.
Je m'attendais à ce que la servante recule effrayée ou lui demande pardon. Mais non. Elle le regarda froidement dans les yeux, puis déclara « La dame dit, cela n'a rien à voir avec les runes du dieu. C'est une robe qui parlera aux hommes des six duchés. Elle la portera. » Elle se tut, parut réfléchir, puis ajouta « Si elle refusait de la mettre, cela représenterait un danger pour la maison de vos mères. » Et comme si le geste de Péotre n'avait été rien de plus que celui d'un enfant entêté, elle ramassa la robe et la tint à nouveau devant elle. Derrière l'homme, Eliania poussa un petit cri étouffé, comme un gémissement de douleur. Alors qu'il se retournait vers elle, j'entreaperçus le visage de l'enfant. Il était figé en un masque de détermination, mais la transpiration perlait à son front, et elle était devenue aussi pâle qu'elle avait rougi auparavant. « Arrête !» dit Péotre dans un souffle, et je crus tout d'abord qu'il s'adressait à Eliania. Mais il jeta soudain un regard par-dessus son épaule. Pourtant, quand il parla, il ne parut pas s'adresser davantage à la servante.
« Arrête ! L'habiller comme une putain ne faisait pas partie de notre accord, et nous ne nous laisserons pas forcer la main. Arrête, ou je la tue, et tu perdras tes yeux et tes oreilles dans ce château. »
Il dégaina son couteau et s'avançant vers la domestique, il posa le fil de la lame sur sa gorge. Sans reculer ni même blêmir, la femme le regarda, les yeux étincelants, avec un sourire presque moqueur, et ne répondit pas. Tout à coup, Eliania poussa un soupir haché et ses épaules tombèrent. L'instant d'après, elle se redressa, la tête haute, et pas une larme ne roula sur ses joues. D'un mouvement vif et souple, Péotre arracha la robe des mains de la femme. Son couteau devait être aiguisé comme un rasoir, car il trancha sans difficulté le tissu du haut jusqu'en bas. L'homme jeta par terre le vêtement définitivement abîmé, puis le piétina.
« Dehors !» ordonna-t-il à la femme.
« Comme il vous plaira, monseigneur, naturellement !»
murmura-t-elle sur un ton de persiflage avant de se retirer. Elle prit son temps, et Péotre attendit qu'elle eût refermé la porte derrière elle pour se tourner vers Eliania.
« Tu n'as pas trop mal, petit poisson. »
Elle secoua la tête d'une saccade sèche et brève, le menton levé. C'était pure bravade, car elle paraissait plutôt sur le point de s'évanouir. Je quittai mon banc sans bruit, le front couvert de poussière, là où je m'étais appuyé au mur pour observer la scène. Humbre savait-il que la Narcheska n'avait aucune envie d'épouser notre prince? Savait-il que Péotre ne considérerait pas les fiançailles comme un engagement ferme? De quoi souffrait la Narcheska? Qui était la dame? Pourquoi la servante se montrait-elle si peu révérencieuse? Je rangeais ces questions en compagnie des bribes de renseignements que j'avais glanées jusque-là. Pris mon paquet d'affaires et me remis en route pour la tour d'Imbre. Au moins, cette petite séance d'espionnage m'avait fait oublier un temps mes propres soucis. Je gravis la dernière volée de marche escarpée qui menait au réduit dont je poussais la porte. Je captais une mélodie lointaine, sans doute des ménestrels qui se chauffaient les doigts et accordaient leurs instruments pour les festivités du soir. J'entrai dans la salle d'Imbre en faisant pivoter un casier à bouteille. Je retins alors ma respiration, remis sans bruit le meuble en place d'une pression sur l'épaule et déposai mon paquet à côté. L'homme penché sur la table de travail d'Imbre marmonnait d'une voix gutturale une suite de plaintes ininterrompues et monotones, et la musique me parvenait plus forte et plus claire. À pas de loup, je gagnais la cheminée à l'angle de laquelle était appuyée l'épée de vérité. Ma main avait à peine effleuré la garde que l'homme se tourna vers moi. C'était le simple d'esprit que j'avais entrevu dans la cour des écuries 15 jours plus tôt. Dans sa surprise, il inclina le plateau qu'il portait, et les bols, le pilon et la tasse qui s'y trouvaient se mirent à glisser. Il le posa précipitamment sur la table. La mélodie s'était tue. Nous restâmes un moment à nous regarder en chiens de faïence, aussi surpris et méfiants l'un que l'autre. Ses paupières à demi fermées lui donnaient l'air constamment somnolent, et le bout de sa langue pointait, plaqué contre sa lèvre supérieure. Il avait de petites oreilles collées au crâne sous sa chevelure taillée à la va-vite. Ses vieilles frusques pendaient sur lui. Ses manches et ses bas de pantalon coupés indiquant qu'elles avaient appartenu à un homme de plus grande taille. Il était petit, pensu, et je ne sais pourquoi, ces différences le rendaient un peu effrayant. Un frisson de répulsion me parcourut. Il ne présentait pas de danger, j'en étais sûr, mais je n'avais aucune envie qu'il m'approche. Vu le regard noir qu'il posait sur moi, la réciproque était vraie.
« Va-t'en !»
Il parlait d'une voix rauque, la bouche molle. Je me ressaisis et déclarai d'un ton calme. « J'ai le droit de me trouver ici. Et toi ?» J'avais déjà conclu qu'il devait s'agir du domestique d'Imbre, le garçon qui apportait son bois, son eau et faisait son ménage. Toutefois, j'ignorais jusqu'à quel point il connaissait les activités de mon mentor, dont je me gardais de prononcer le nom. Le vieil assassin n'aurait sûrement pas l'imprudence de confier ses secrets à un simple d'esprit.
« Va-t'en, ne me vois pas !»
Le coup de boutoir d'art qu'il m'envoya me fit reculer, chancelant. Si mes murailles mentales n'avaient pas été dressées, j'aurais certainement obéi. Je serais parti sans le voir. En toute hâte, je renforçai encore mes défenses tout en me demandant fugitivement s'il m'avait déjà infligé un tel ordre d'art. Si oui, en conservais-je seulement le souvenir.
« Laisse-moi, ne me fais pas de mal. Va-t'en, tue le chien. »
Je sentis ce deuxième impact, mais j'en fus moins ébranlé. Je n'ouvris pas pour autant mes murailles d'art à l'idiot, et malgré tous mes efforts, c'est d'une voix tremblante que je m'adressai à lui. « Je ne te ferai pas de mal. Je ne veux pas te faire du mal. Je ne te dérangerai pas si c'est ce que tu désires, mais je ne m'en irai pas. Et je ne te laisserai plus me bousculer comme ça. » J'avais tâché de prendre le ton ferme qu'on emploie pour réprimander un enfant qui se conduit mal. Il ne se rendait sans doute pas compte de la portée de sa réaction. Il se servait simplement d'une arme jusque-là efficace. Mais au lieu de la contrition, ce fut la colère que je lus sur ses traits, et peut-être de la peur. Quand il les plissa, ses yeux déjà petits disparurent presque complètement derrière ses grosses joues. Sa bouche resta un moment ouverte, la langue plus apparente, et puis il saisit son plateau et le reposa violemment sur la table, faisant sursauter les objets qui le garnissaient.
« Va-t'en !»
Son art tonna dans sa voix.
« Tu ne me vois pas !»
Sans le quitter du regard, je trouvai à tâtons le fauteuil d'Imbre et m'y assis d'un air décidé.
« Si, je te vois, »
répondis-je d'un ton uni, « et je ne m'en irai pas. » Je croisais les bras sur ma poitrine. J'espérais qu'il ne se rendait pas compte à quel point j'étais ébranlé. « Tu devrais faire ton travail en feignant, toi, de ne pas me voir, moi. Et quand tu auras fini, c'est toi qui devrais t'en aller. » Il n'était pas question que je batte en retraite. C'était impossible. Sortir lui révélerait par où j'étais entré. Et s'il ne le savait pas, ce n'était pas moi qui le lui montrerais. Je me laissais aller contre mon dossier en tâchant de prendre l'air détendu. Il m'observait d'un air assassin, et les coups furieux de son art contre mes murailles étaient impressionnants. Il était très puissant. S'il possédait une telle force à l'état brut, quel sommet atteindrait son talent s'il apprenait à le maîtriser? L'effroi me saisissait rien que d'y songer. Je fis semblant de me plonger dans la contemplation de l'être froid, mais je le surveillais du coin de l'œil. Ou bien il avait terminé ses corvées, ou bien il avait décidé de ne pas les exécuter. Quoi qu'il en fût, il prit son plateau, traversa la pièce à pas circonspect et tira vers lui un casier à manuscrit. En une occasion, j'avais vu Ambre emprunter cette issue. Il disparut dans l'ouverture, mais comme le meuble reprenait sa position derrière lui, sa voix et son art me parvinrent encore.
« Tu pues le caca de chien. On te coupe en morceaux et on te brûle. »
Sa rage était comme une marée qui se retirait lentement et me laissait échouer sur la grève. Au bout de quelque temps, je pressai mes doigts sur mes tempes. L'effort qu'il me fallait fournir pour maintenir mes remparts solidement dressés commençait à m'épuiser. Mais je n'osais pas me relâcher. S'il sentait que je baissais ma garde, s'il décidait de m'imposer un ordre d'art avec toute sa puissance, je serais incapable de m'y opposer. Pas plus que devoir n'avait pu parer mon commandement impulsif de ne pas me résister. Je craignais que l'esprit de mon prince n'emporta encore la marque indélébile. C'était là une autre inquiétude sur laquelle il fallait que je me penche. Restait-il soumis à cet ordre? Je résolus de trouver le moyen d'annuler mon injonction, sans quoi, je le savais, elle ferait bientôt obstacle à toute amitié véritable entre devoir et moi. Avait-il seulement conscience de ce que je lui avais infligé? Je songeais que c'était arrivé par accident, et puis je me fis honte de mon propre mensonge. C'était mon caractère emporté, ma colère à moi qui avait imprimé cet ordre dans l'esprit de mon prince. Je m'en sentais mortifié, et plus vite j'effacerai cette empreinte, mieux cela vaudrait pour nous deux. Je me rendis compte que j'entendais à nouveau de la musique, et je fis un rapprochement hasardeux. Je baissai peu à peu mes remparts, et elle devint de plus en plus audible. Je me bouchai les oreilles, mais cela n'y changea rien. Artisé de la musique. Jamais je n'avais imaginé pareil phénomène, et pourtant, c'était ce que faisait le simple d'esprit. Quand j'en détournai mon attention, elle disparut derrière l'écran de pensées qui voltait toujours aux limites de mon art, murmures informes pour la plupart, brefs éclats d'individus qui possédaient juste assez de talent pour lancer leurs idées les plus pressantes dans le flot de l'art. Si je me concentrais sur elle, je parvenais parfois à capter des pensées et des images complètes de ses esprits, mais il manquait de force pour percevoir ma présence et, à plus forte raison, répondre. Le simple d'esprit était différent. Son art était un brasier rugissant, sa musique, le rythme et la fumée de son talent indompté. Il ne cherchait pas à le dissimuler. Il ignorait peut-être comment s'y prendre, ou bien il n'en avait jamais vu l'utilité. Je me détendis en ne gardant en place que la muraille qui assurait l'intimité de mes pensées face au talent bourgeonnant de devoir. Et puis, avec un brusque gémissement, j'enfouis mon visage dans mes mains, tandis que le coup de tonnerre d'une migraine d'art éclatait dans mon crâne.
Fitz !
J'avais senti la présence d'Ambre une fraction de seconde avant qu'il ne touche mon épaule. Cela ne m'empêcha pas de sursauter en m'éveillant et de lever les mains comme pour parer un coup.
« Que t'arrive-t-il, mon garçon ? »
me demanda-t-il d'un ton inquiet avant de se pencher pour m'examiner de plus près.
« Mais tu as les yeux injectés de sang. À quand remonte la dernière fois que tu as dormi ?»«
À l'instant, je crois. » Je réussis à lui faire un pâle sourire. Je passai mes mains dans ma tignasse hirsute. Elle était poisseuse de transpiration. J'avais eu un cauchemar, mais seuls des lambeaux épars en demeuraient dans ma mémoire. « J'ai fait la connaissance de votre serviteur, » dis-je d'une voix mal assurée.
« Lourd ? Ah, oui, oh, ce n'est pas le cerveau le plus brillant du château, mais il convient admirablement à mes desseins. Il aurait du mal à trahir le moindre secret, alors qu'il ne serait pas fichu d'en reconnaître un s'il y mettait les deux pieds. Mais assez parlé de lui. Je suis monté dès que j'ai reçu le message de Sire Doré, en espérant te voir. Y aurait-il donc des pies à Bourg de Castelserre ?
C'est ce qu'il vous a écrit ? M'écriai-je furieux.
« Non, pas aussi clairement. Nul autre que moi n'aurait pu en décoder le sens. Allons, raconte-moi. »
Ils m'ont suivi cette nuit, enfin, ce matin, pour m'effrayer et me prévenir qu'ils me connaissaient, qu'ils étaient en mesure de me retrouver quand ils le voulaient. Ambre,
Laissons un moment ce sujet de côté. Savez-vous que votre serviteur... Comment s'appelle-t-il déjà? Lour? Saviez-vous que Lour possède l'art?
L'art de quoi? De casser la vaisselle?
Le vieil homme eut un bref éclat de rire, comme si je venais de faire une mauvaise plaisanterie. Puis il poussa un soupir en désignant l'âtre éteint d'un air désespéré.
Normalement, il doit allumer un petit feu dans cette cheminée tous les jours, mais il oublie une fois sur deux. De quoi parles-tu?
Lour possède l'art, et il est très puissant. Il a failli me faire tomber raide quand je l'ai effrayé en arrivant ici impromptu. Si mes murailles mentales n'avaient pas été déjà dressées pour empêcher toute intrusion de devoir, je crois bien qu'il aurait effacé mon esprit sous l'impact de son art. « Va-t'en, » m'a-t-il dit, « et aussi, ne me vois pas, et ne me fais pas de mal. » Et je ne pense pas que ce soit la première fois qu'il agit ainsi. J'en ai moi-même été victime. Il y a quelque temps dans les écuries, j'ai vu certains des garçons le taquiner, et puis j'ai entendu, presque comme si on avait prononcé tout haut ces mots, « ne me voyez pas ». Les garçons d'écurie ont repris le travail sans paraître se rendre compte de rien, et moi-même, je n'ai aucun souvenir de lui après cette phrase. Humbre s'assit lentement dans mon fauteuil, puis il me prit la main, comme si cela pouvait lui rendre mes propos plus compréhensibles. Mais peut-être voulait-il simplement vérifier que je n'avais pas de fièvre.
« Lour possède la magie de l'art, » fit-il d'un ton circonspect. « C'est bien ce que tu dis. »
Oui. À l'état brut et complètement indisciplinée, mais elle brûle en lui comme un incendie. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi puissant. Je fermai les yeux, posai les mains à plat sur mes tempes et m'efforçai de rassembler mon crâne en un seul morceau. J'ai l'impression d'avoir été roué de coups. Au bout d'un moment, Humbre fit d'un ton bourru.
« Tiens, essaye ceci. »
Je pris le linge humide et froid qu'il me tendait et l'appliquai sur mes yeux. Je ne tentais même pas de lui demander une médication. Le vieil entêté avait décidé une fois pour toutes de m'interdire les produits contre la douleur, de crainte qu'il ne m'empêche d'enseigner correctement l'art à devoir. Inutile donc de me perdre en vains regrets sur le soulagement que pourrait m'apporter les corps elfiques. S'il en restait à Castelserre, il l'avait bien dissimulé. « Que faire ? » murmura-t-il, et je soulevai un coin de la compresse pour le regarder. « À quel sujet ?»
Lourd et son art.
Faire? Que voulez-vous faire? Il l'a, c'est tout. Il se rassit.
D'après ce que j'ai traduit des vieux manuscrits sur l'art, il constitue plus ou moins un danger pour nous. Il possède un talent à l'état naturel, sans maîtrise ni discipline. Son art risque à tout instant de détruire celui de devoir. Si on le met en colère, il peut l'utiliser contre les autres, comme ça s'est déjà produit, à t'en croire. Et il est puissant par-dessus le marché, plus encore que toi. »
Je levai la main en un geste futile. « Ça, je n'ai aucun moyen de le savoir. Mon don a toujours été erratique, Humbre, et je ne vois pas comment le mesurer. Mais la dernière fois que je me suis senti poussé ainsi dans mes derniers retranchements, c'était quand le clan de Galen a uni toutes ses forces contre moi. Il se laissa aller contre le dossier du fauteuil et contempla le plafond.
« Le plus prudent serait peut-être de l'éliminer, tout simplement. En douceur, naturellement. Ce n'est pas sa faute s'il nous met en péril. De façon moins radicale, on pourrait glisser de l'écorce elfique dans ses aliments pour amoindrir, voire anéantir son talent. Cependant, ton usage sans restriction de cette substance au cours des 10 dernières années n'a pas complètement effacé tes capacités d'artiseur. J'ai donc moins confiance en son efficacité que les auteurs des textes anciens. Mais c'est une troisième voie qui aurait ma préférence. Une voie plus dangereuse, peut-être. Et qui sait si ce n'est pas pour ça qu'elle m'attire. Parce que les risques sont aussi grands que les possibilités qu'elle recèle.
Le former? Je gémis devant son sourire plein d'espoir.
« Humbre, non.
À nous deux, nous ignorons si nous disposons des connaissances nécessaires pour enseigner l'art à devoir en toute sécurité. Or, c'est un garçon raisonnable et intelligent. Votre Lour, lui, m'est déjà hostile. Ses insultes me font craindre qu'il a détecté mon vif, je ne sais comment, et il est parvenu seul à un niveau qui représente un danger pour moi, si je tente de lui en apprendre davantage.
« Tu es donc d'avis de l'éliminer ?» ou de détruire son talent.
Je ne voulais pas endosser une telle décision. Je ne voulais même pas savoir si elle était prise ou non, mais c'était impossible.
je me trouvais de nouveau plongé jusqu'au cou dans les sombres machinations des loin voyants. « Je ne suis d'aucun de ses avis, » murmurai-je. « Ne peut-on l'envoyer très loin d'ici, tout simplement ?»« L'arme dont tu te débarrasses dans un fourré aujourd'hui sera sur ta gorge demain, » répliqua Imbre, implacable. « C'est pour cette raison que le roi subtil avait décidé, il y a bien longtemps, de garder son petit-fils près de lui. Nous avons un choix similaire à faire aujourd'hui concernant Lour. Il faut l'utiliser ou le rendre inutilisable. Il n'y a pas d'intermédiaire. » Il leva la main pour m'empêcher de l'interrompre et ajouta, « Nous en avons eu la preuve avec l'épi. » J'ignore s'il y avait un reproche dans cette dernière phrase, mais je la ressentis douloureusement. Je m'adossai dans mon fauteuil et replaçai la compresse humide sur mes yeux. Qu'auriez-vous attendu de moi? Que je tue tout le monde, non seulement l'épi qui avait enlevé le prince, mais aussi les anciens du lignage qui s'étaient portés à notre secours? Et puis, la propre grand-veneuse de la reine? Et toute la famille Brisinga? Et pourquoi pas Sidèle, la fiancée du fils Brisinga? Et aussi, il interrompit mon exposé du cercle grandissant d'assassinats qui n'aurait tout de même pas suffi à protéger complètement notre secret. Je sais, mais vois la situation telle qu'elle est. Ils nous ont donné la preuve de leur promptitude et de leur efficacité. Tu n'es pas revenu à Castelcerf depuis 2 jours qu'ils t'ont déjà à l'œil, prêt à te tuer. Arrête-moi si je me trompe, mais c'était la première fois hier soir que tu t'aventurais en ville, n'est-ce pas ?
J'acquiesçai de la tête.
Ils t'ont repéré aussitôt. « Et ils te l'ont annoncé sans équivoque. C'est une manœuvre qui ne doit rien au hasard. »
Il poussa un long soupir, et je compris qu'il retournait l'épisode en tout sens en s'efforçant d'en extraire le message que l'épi avait voulu me transmettre.
« Ils savent que le prince a le vif. Ils savent que tu l'as aussi. Ils peuvent vous anéantir quand bon leur semble. »
Nous étions déjà au courant. « Non. » Je pense que leur intention était autre. Je mis de l'ordre dans mes pensées et fis à Imbre un compte-rendu succinct de ma rencontre. Je l'aperçois sous un nouveau jour à présent. Il voulait m'effrayer et m'obliger à réfléchir aux différents moyens de me protéger d'eux. Je puis me poser en menace pour eux, auquel cas ils n'hésiteront pas à m'éliminer ou bien collaborer avec eux. Ce n'était pas exactement ainsi que je voyais la situation. Mais les sous-entendus me paraissaient maintenant évidents. Ils avaient monté leur guet-apens pour me faire peur, et puis ils m'avaient laissé partir sain et sauf pour me donner le temps de comprendre que je ne pouvais pas les tuer tous. Combien de personnes connaissaient désormais mon secret? Par conséquent, le seul moyen pour moi de rester en vie était de me mettre à leur service. Qu'exigerait-il de moi? Peut-être d'espionner pour leur compte à Castelcerf, ou de jouer l'espadassin prêt à détruire les loin voyants de l'intérieur. Imbre avait suivi mon raisonnement sans difficulté.
« Ne pourrions-nous choisir cette dernière solution ? Oui, je te conseille, pendant quelque temps du moins, de te montrer prudent, quoiqu'en conservant l'esprit ouvert. Tiens-toi prêt à un nouveau contact, et vois alors ce qu'ils exigent et ce qu'ils proposent. Si nécessaire, laisse-leur croire que tu acceptes de trahir le prince. »
L'asticot au bout de la ligne, quoi. Je me redressai en ôtant le linge humide de mes yeux. Un sourire tira un coin de sa bouche.
« Exactement. »
Il tendit la main, et je lui rendis la compresse. Il se pencha vers moi et m'observa d'un air critique.
« Tu as une mine épouvantable, pire que si tu sortais d'une semaine de beuverie. Tu as mal ?»«
Je survivrai, » répondis-je d'un ton bourru. Il hocha la tête satisfait.
« Tu n'as pas le choix, de toute façon, mais la douleur s'atténue chaque fois, n'est-ce pas ? Ton organisme apprend à y faire face. J'ai l'impression que tu es un peu dans la situation d'un soldat qui entraîne ses muscles à supporter les longues heures d'exercice. »
Je me laissais aller en avant avec un soupir et me frottais les yeux. J'ai plutôt l'impression d'être dans la situation d'un bâtard qui apprend à supporter la douleur.
« Peu importe, ça me convient, »
répondit-il d'un ton enjoué. Inutile de compter sur sa compassion. Il se leva.
« Va faire ta toilette, Fitz. Restaure-toi, puis montre-toi. Porte tes armes de façon visible, mais non ostentatoire. Il se tut un instant. « Tu n'as pas oublié où je range mes poisons et mes instruments, n'est-ce pas ? Sers-toi, mais laisse-moi une liste de ce que tu prélèves afin que je fasse regarnir la réserve par mon apprenti. »
Je ne répondis pas que je ne prendrais rien, que je n'étais plus un assassin. J'avais déjà songé à une ou deux poudres qui pourraient se révéler utiles si je me retrouvais seul contre plusieurs comme ce matin-là.
« Quand vais-je voir votre apprenti ? » demandai-je sans avoir l'air d'y toucher.
« Tu l'as déjà vu ?»
Il sourit.
« Quant à vous présenter l'un à l'autre, je crois que ce serait peu judicieux et assez gênant pour vous deux, et pour moi aussi. Fitz, je dois faire appel à ton sens de l'honneur sur ce sujet. Laisse-moi ce secret et ne cherche pas à le percer. Fais-moi confiance, il vaut mieux ne pas y toucher. »
À propos d'indiscrétion, j'ai autre chose à vous apprendre. En montant chez vous, je me suis arrêté un moment dans les escaliers, et j'ai alors entendu des voix. J'ai mis l'œil au trou d'observation, et je me suis aperçu qu'il correspondait à la chambre de la Narcheska. J'ai glané quelques renseignements dont je dois vous faire part. Il pencha la tête.
« C'est tentant, très tentant. Mais tu n'as pas réussi à me distraire complètement. Ta promesse, Fitz, avant que tu recommences à essayer de changer le fil de mes idées. »
À la vérité, je n'avais nulle envie de donner ma parole. Ce n'était pas seulement de la curiosité, qui certes me dévorait, ni une jalousie mal placée. Cette promesse allait à l'encontre de tout ce que m'avait enseigné le vieillard. Sa formation m'incitait à en apprendre le plus possible sur tout ce qui se passait autour de moi, car on ne sait jamais quel détail peut se révéler utile. Sous son regard vert à l'éclat inquiétant, je finis par détourner les yeux, secouai la tête et dis à contre-cœur « Je promets de ne pas chercher volontairement à découvrir l'identité de votre nouvel apprenti. Mais puis-je poser au moins une question ? Connaît-il mon existence ? Sait-il qui j'étais ?
Mon garçon, je ne divulgue jamais les secrets qui ne m'appartiennent pas. »
Je poussai un petit soupir de soulagement. J'aurais été mal à l'aise de m'imaginer sous la surveillance de quelqu'un du château, quelqu'un qui me connaîtrait mais que je ne verrais jamais. Au moins, je me trouvais sur un pied d'égalité avec ce nouvel apprenti.
« Bien, revenons à la Narcheska, » dit Imbre.
Et je lui fis mon compte-rendu, comme à une époque que je croyais révolue. De la même façon qu'au temps de mon adolescence, je lui rapportais mot pour mot les propos que j'avais surpris. Après quoi, il m'interrogea sur le sens que je leur supposais. Je répondis sans détour. J'ignore la place qu'occupe l'homme dans le présent que les Outriliens font à la reine Kétriken en lui offrant la Narcheska. Mais il ne se sent pas lié par ses fiançailles, et les conseils que je l'ai entendu donner à la jeune fille la poussent à partager ce sentiment.
« C'est très intéressant. Je puis t'affirmer que c'est un précieux élément que tu m'apprends, Fitz. » Cet étrange domestique m'intrigue aussi. Quand tu en auras l'occasion, espionne-les à nouveau et mets-moi au courant de ce que tu apprendras.
Votre nouvel apprenti ne s'en chargerait-il pas aussi bien que moi ?
Tu cherches de nouveau à fourrer ton nez là où il n'a rien à faire, et tu le sais très bien. Mais je vais te répondre cette fois. Non, mon apprenti ne connaît pas plus que toi à l'époque l'existence des galeries d'observation. Ces passages ne regarde pas les novices. Ils ont déjà bien assez à faire à s'occuper de leur propre personne et à préserver leurs propres secrets sans que j'aille les encombrer des miens. Je crois cependant que je vais tout de même lui demander de prêter une attention particulière à la servante. Elle est la pièce que je redoute le plus dans ce nouveau casse-tête que tu me soumets. Mais les galeries d'observation et les couloirs dissimulés de Castelcerf demeurent notre domaine privé, à toi et à moi. Dès lors,
il eut un curieux sourire torve,
tu peux considérer, je pense, que tu as été promu au rang de compagnon, ce qui ne veut pas dire que tu es redevenu un assassin. Nous savons l'un comme l'autre que ce n'est pas le cas, naturellement.
Sa petite pique toucha un point sensible chez moi. Je n'avais nulle envie qu'on me fasse toucher du doigt à quel point j'avais rendossé mes anciens rôles d'espion et d'assassin. J'avais déjà recommencé à tuer à plusieurs reprises au nom de mon prince, mais toujours sous l'impulsion de la colère, pour me défendre et sauver devoir. Étais-je prêt à me remettre à tuer en secret par le poison, de sang-froid, sous la pression de la nécessité pour les loin-voyants? Le plus troublant dans cette question était que je n'en connaissais pas la réponse. Je fis un effort pour orienter mes pensées vers des voies plus productives. Qui est l'homme que j'ai vu dans la chambre de la Narcheska? C'est son oncle Piotr, je sais, mais à part ça...
Ah, sans t'en douter, tu as répondu à ta propre interrogation. C'est l'oncle de la Narcheska, le frère de sa mère. Traditionnellement, dans les îles d'outre-mer, ce rôle dépasse en importance celui du père, car c'est le lignage par la mère qui compte. Et les frères d'une femme tiennent la place masculine prépondérante dans la vie de ses enfants. Les maris entrent dans le clan de leur épouse, et les enfants adoptent le symbole clanique de leur mère.
Je hochai la tête sans rien dire. Pendant la guerre des pirates rouges, j'avais lu les rares textes sur les outriliens que renfermait la bibliothèque de Castelserre, dans l'espoir de comprendre ce qui motivait leurs agressions. J'avais aussi servi aux côtés de guerriers outriliens dissidents à bord du Rurisque et glané auprès d'eux quelques renseignements sur leur pays et leurs mœurs. Ce qu'Imbre m'apprenait aujourd'hui confirmait mes souvenirs. Il se frotta le menton d'un air pensif.
Quand Harkon s'engrippait nous a soumis son idée d'alliance, il avait l'appui de son Edgurd. J'ai accepté ce fait, tout comme j'ai accepté qu'en tant que père d'Eliania, il arrange son mariage. J'ai pensé que les îles d'outre-mer avaient peut-être abandonné leur coutume matriarcale. Mais après ton compte-rendu, je me demande si la famille d'Eliania n'y reste pas fidèle. Pourtant, si c'est le cas... Pourquoi aucune parente n'est-elle présente pour s'exprimer au nom de la Narcheska et négocier les termes des fiançailles? Apparemment, Harkon Sangrépé mène seul les tractations. Piotr Onde Noir joue les chaperons et les gardes du corps d'Eliania, mais je constate qu'il est également son conseiller. Peut-être les égards que nous avons eus jusqu'ici pour son père étaient-ils mal placés. Je veillerai à ce qu'on accorde plus de respect à Piotr. »
Il fronça les sourcils, révisant rapidement son point de vue sur la proposition de mariage.
« Je connais l'existence de la servante. Je la prenais pour la confidente de la Narcheska, peut-être une vieille nourrice ou une parente pauvre, mais d'après ce que tu me rapportes, elle paraît en désaccord avec Eliania et son oncle. Il y a anguille sous roche, fils. »
Il poussa un grand soupir et reconnut son erreur avec réticence.
« Je croyais que nous négocions cette union avec Sangrépé, le père d'Eliania, mais c'est peut-être sur la famille maternelle de la petite que je devrais me renseigner. Toutefois, si c'est bien le clan de sa mère qui nous l'offre, cela fait-il de Sangrépé une dupe ou un homme de paille? Dispose-t-il d'une autorité quelconque ?»
Le front creusé de plis profonds, il se perdit dans ses réflexions, et je pris soudain conscience que la menace des pies qui pesait sur moi s'était réduite à un souci d'ordre mineur, qu'Imbre me jugeait parfaitement en mesure de régler par moi-même. Je ne savais pas si je devais me sentir flatté de sa confiance ou diminuer de me voir considéré comme un pion sans importance. Il me rappela soudain à la réalité.
« Bien, je pense que nous avons débrouillé la situation autant qu'il l'est possible pour le moment. » « Présente mes regrets à ton maître, Tom Blaireau. Explique-lui qu'une migraine me prive du plaisir de sa compagnie pour cet après-midi, mais que mon prince s'est montré heureux d'accepter son invitation. Cela donnera enfin à devoir ce qu'il désire, et il cessera peut-être de me casser les pieds pour que je lui obtienne du temps avec toi. Inutile de te rappeler de faire preuve de discrétion avec le prince. Il ne faut pas que vos entrevues suscitent d'interrogations. En outre, je te suggère de limiter votre promenade à des zones où nul ne peut vous entendre, ou bien au contraire à des lieux très fréquentés où il faudrait beaucoup d'audace aux pies pour chercher à t'aborder. En vérité, j'ignore ce qui serait le plus sage. »
Il poussa un soupir et son ton changea.
« Fitz, ne sous-estime pas ton influence sur le prince. Lors de nos conversations privées, où il peut s'exprimer en toute liberté, il manifeste une grande admiration pour toi. Je ne suis pas sûr que tu aies eu raison de lui révéler notre relation, mais ce qui est fait est fait. Ce n'est pas seulement un apprentissage dans la magie de l'art qu'il veut de toi, mais les conseils d'un homme adulte sur tous les aspects de sa vie. Sois donc prudent.
un mot irréfléchi de ta part, et notre prince pourrait bien emprunter un chemin où aucun d'entre nous ne pourrait le suivre sans danger. Je t'en prie, parle en bien de ses fiançailles et encourage-le à exécuter ses devoirs royaux de bon cœur. Quant aux menaces des pies à ton encontre, ma foi, le jour serait peut-être mal choisi pour lui imposer des inquiétudes à ton sujet. Certains verront peut-être déjà d'un œil étonné notre prince partir en promenade en compagnie d'un noble étranger et de son garde du corps. » Il s'interrompit soudain. « Mais ne crois pas que je veuille te dicter ton attitude vis-à-vis du prince. Je sais qu'une relation s'est déjà nouée entre vous. »
« En effet, » répondis-je, en m'efforçant de gommer toute brusquerie de mon ton. Car à la vérité, j'avais senti l'agacement monter en moi à mesure qu'il dévidait sa liste de directives. J'inspirais profondément. « Imbre, vous l'avez dit. Ce garçon attend de moi des conseils d'homme fait. Je ne suis ni courtisan, ni conseiller. Si je tente d'orienter sa façon de penser strictement dans l'optique des buts que poursuivent les six duchés, je me tue pour éviter de déclarer à Imbre que le résultat serait faussé pour tout le monde. Je m'éclaircis la gorge. Je souhaite ne jamais mentir à devoir. S'il me demande mon avis, je lui dirai franchement ce que je pense. Mais je ne crois pas que vous ayez à vous inquiéter outre mesure. C'est Kétriken qui a élevé son fils, qui l'a formé, et il sera fidèle à son enseignement. Quant à moi, ma foi, à mon sens, ce garçon a moins besoin de quelqu'un qui lui parle que de quelqu'un qui l'écoute. Aujourd'hui, je l'écouterai. En ce qui concerne ma rencontre de ce matin avec l'épi, je ne vois guère l'utilité d'en avertir de voir tout de suite. Je le préviendrai peut-être, tout de même, qu'il ne doit pas les oublier complètement, mais qu'il demeure une force avec laquelle il faut compter. Cela m'amène d'ailleurs à vous poser une question. Les Brezinga assisteront-ils à la cérémonie de fiançailles ?
Je suppose. Ils sont invités et on les attend dans la journée.
Je me grattai la nuque. Ma migraine ne passait pas, mais elle semblait se muer en un mal de tête ordinaire. S'il ne vous dérange pas de partager ces renseignements avec moi, j'aimerais savoir qui fait partie de leur suite. Quels sont leurs chevaux? Quelles bêtes de chasse ils amènent? Faucons? Et même animaux de compagnie? Le tout avec autant de détails que possible. Ah, une chose encore. Je crois qu'il faut prendre un furet ou un ratier pour surveiller les appartements où nous nous trouvons. Une petite créature au pas léger qui serait chargée de faire la guerre aux rats et autres vermines. Une des bêtes de vive de ce matin était un rat, ou peut-être une belette ou un écureuil. Un tel espion aurait accès pratiquement à tout le château. Imbre parut épouvanté.
Je vais demander un furet, je pense. C'est moins bruyant qu'un ratier et tu pourrais t'en faire accompagner dans les passages secrets.
Il pencha la tête de côté.
Tu envisages de le prendre comme animal de vif ?
Je sentis mes lèvres se crisper. Imbre, ça ne marche pas ainsi. Je m'efforçais de garder à l'esprit qu'il avait posé la question par ignorance et non par manque de cœur. Je me sens comme un homme qui vient de perdre son épouse. Je n'ai aucune envie de tisser un nouveau lien pour le moment.
Pardonne-moi, Fitz, j'ai du mal comprendre. Ma formulation va peut-être te paraître insolite, mais je n'avais pas l'intention de lui manquer de respect.
Je changeais de sujet. Bien. Il faut que j'aille me préparer si je dois sortir à cheval avec le prince cet après-midi. Et nous aurions intérêt tous les deux à réfléchir à ce que nous allons faire de votre serviteur.
Je vais m'arranger pour que nous ayons une entrevue avec lui, mais pas aujourd'hui ni ce soir, même pas demain peut-être. Les fiançailles passent avant tout actuellement et elles doivent se dérouler sans anicroche. Penses-tu que la question de Lourdes puisse attendre ?
Je haussai les épaules. Il faudra bien. Bonne chance pour tout le reste. Je me levai et pris la cuvette ainsi que la compresse humide pour me débarbouiller en cours de route.
Fitz.
Au ton de sa voix, je m'arrêtai.
Je ne te l'ai pas dit ouvertement. Mais tu peux considérer ces appartements comme les tiens à présent. Je le sais, un homme dans ta position a besoin parfois de solitude et d'intimité. Si tu veux apporter des changements, la place du lit, les tentures, ou si tu désires qu'on t'y dépose de quoi manger ou une réserve d'eau de vie, enfin, ce qui te fait plaisir, tu n'as qu'à me le demander.
Sa proposition fit courir un frisson glacé le long de mon dos.
Jamais je n'avais souhaité m'approprier cet atelier d'assassin. Non. Merci, mais non. Laissons ces pièces en l'état pour le moment. J'y rangerai peut-être certaines de mes affaires, comme l'épée de vérité et quelques objets personnels. Je lus dans ses yeux un regret dissimulé quand il hocha la tête.
Si tu ne désires rien de plus, c'est parfait pour le moment.
Il m'observa d'un air critique, mais c'est avec douceur qu'il ajouta « Tu portes toujours le deuil. Je ne l'ignore pas, mais tu devrais me laisser égaliser tes cheveux ou demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Ta coiffure actuelle attire l'attention. » Je m'en chargerai moi-même dès aujourd'hui. Ah, j'allais oublier. Il était étrange de constater que ce souci pourtant pressant s'était effacé devant mes autres inquiétudes. Je marquai une pause. Il me paraissait presque plus difficile à présent d'avouer ma négligence à Imbre. J'ai fait preuve d'incurie. Quand j'ai quitté ma chaumière, je pensais y revenir bientôt, et j'y ai laissé des manuscrits qui pourraient bien se révéler dangereux. Des textes où j'exposais mes réflexions, ainsi qu'une relation de la façon dont nous avons réveillé les dragons, peut-être un peu trop précise, et à ne pas mettre entre toutes les mains. Il faut que j'y retourne, et très vite pour mettre ces parchemins en sécurité, ou bien les détruire. La mine d'Imbre s'était faite de plus en plus grave à mesure que je parlais. Il poussa un long soupir.
« Toute vérité n'est pas bonne à écrire, » murmura-t-il.
Le reproche était des plus mesurés, mais j'y fus tout de même sensible. Il leva les yeux vers le mur sans paraître le voir.
« Mais je dois le reconnaître, il est précieux qu'elle soit inscrite quelque part. Songe à ce qu'aurait pu éviter Vérité lors de sa quête des anciens si un seul texte détaillé avait subsisté. Oui, récupère tes écrits, mon garçon, et apporte-les ici, où nous les mettrons en sécurité. Je te conseille d'attendre un ou deux jours avant de partir. Les pies s'attendent peut-être à te voir t'enfuir précipitamment. Si tu prends la route tout de suite, certains se lanceront sans doute sur tes traces. Je vais arranger le moment et le moyen les plus propices à ton départ. Veux-tu que je te fasse accompagner par quelques hommes dignes de confiance? Ils ignoreront qui tu es et ce que tu vas chercher. Ils sauront seulement qu'ils doivent t'assister. »
Je réfléchis, puis secouai la tête. Non. Je n'ai déjà laissé que trop transparaître mes secrets. Je m'en chercherai seul à Imbre. Mais j'ai un autre sujet de préoccupation. Je trouve que les gardes des issues de Castelserre prennent leur travail beaucoup trop à la légère. Avec les pies qui rôdent, les fiançailles du prince qui s'organisent et les outréliens qui vont et viennent, il faut leur ordonner de se montrer plus vigilants.
Eh bien, je vais voir cela aussi. C'est tout de même étonnant. Je pensais que ta venue me permettrait de te déléguer une partie de mon travail et me laisserait plus de temps pour jouir de ma vieillesse, mais non. On dirait que tu t'acharnes à me gaver d'ouvrages et de problèmes à résoudre. Non, ne me regarde pas ainsi. C'est très bien comme cela, je pense. Le travail, ça conserve, disent les vieux. Mais s'ils le disent, c'est peut-être parce qu'ils savent devoir continuer à trimer. Allons. « Va-t'en, Fitz, et tâche de ne pas m'accabler de nouvelles catastrophes avant demain. »
Et je le laissai donc assis dans son fauteuil près de l'âtre éteint, l'air à la fois songeur et curieusement satisfait.